Artisan de paix. Artisan de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Placement solidaire. Comment donner du sens à son épargne ? Voilà un beau titre pour un article paru le 19 octobre dans l'hebdo La Croix. Agir sur la destination de son épargne est pour un citoyen la façon la plus simple d'influer sur le monde qui l'entoure. Savoir où circule son argent. Mieux encore, choisir qui cet argent peut aider. Voilà les objectifs de ce que l'on appelle la finance solidaire. Dès que nous avons un peu d'épargne, nous avons un pouvoir important et nous l'utilisons trop peu, déclarait François Agemène dans un interview en 2022. Du 13 au 20 novembre de cette année, c'est la 16e semaine de la finance solidaire. Trop peu connue, la finance solidaire a pourtant 40 ans cette année, mais moins de 1% des épargnants français l'utilisent. C'est en 1983 que le Crédit Coopératif et le CCFD Solidaire lancent un fonds de partage pour financer des projets de développement dans les pays du Sud. La collecte de l'épargne solidaire atteint en 2022 6,3 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, mais c'est vraiment encore trop peu. Il faut encourager les banques, les entreprises et les particuliers. Car les produits financiers de ce type sont aussi rentables que les autres, mais il y a des craintes. Peut-on faire confiance au monde de la finance ? L'opacité est parfois présente dans le secteur bancaire. Alors il y a des labels, comme Finansol, et il y a un nouveau label, ISR, Investissement Socialement Responsable, qui bannira les énergies fossiles. C'est l'annonce de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, label qui entrera en vigueur en mars 2024, un label qui exclura les entreprises qui exploitent du charbon ou celles qui lancent de nouveaux projets d'exploration ou d'exploitation de pétrole ou de gaz. Il faudra quand même vérifier. Frédéric Rognon, nous nous retrouvons pour la quatrième fois dans cette série d'entretiens consacrés à la non-violence et à Lanza del Vasto. Nous sommes toujours en duplex avec le studio de RCF à Strasbourg. Et au fond, la non-violence, faut-il l'enseigner ? Est-ce que ça s'enseigne ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce possible ? Vous nous avez témoigné sur les éléments forts que porte la non-violence. Est-ce que cela peut s'enseigner ?
Alors je dirais oui et non. Oui, parce que c'est pas forcément une attitude naturelle d'être non-violent. On a plutôt tendance, quand on est soit victime, soit témoin d'une violence, soit de répondre coup pour coup, soit de fuir ou de rester passif ou de rester neutre quand on est témoin. C'est pas naturel que d'aller au contact et d'engager une action qui respecte totalement l'autre et qui ne soit pas ni de la violence ni de la passivité. Donc ça s'enseigne parce que ça demande un apprentissage. Ça ne se fait pas en un jour. Et donc ça s'enseigne d'abord dans les familles avec les enfants. Ça s'enseigne aussi entre adultes, et la vie communautaire est un lieu particulièrement privilégié pour cela, parce qu'on a tous les jours l'occasion de s'exercer à la non-violence. Pour les enfants, par exemple, il s'agit d'insuffler un esprit de coopération, de demande de pardon lorsqu'il y a eu du mal qui a été fait, de réconciliation aussi, parfois de médiation. On peut très bien former les jeunes à être médiateurs entre jeunes. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se faire, qui se font d'ailleurs pas seulement en communauté, mais dans certaines écoles. Donc ça, c'est pour les enfants. Et pour les adultes, eh bien, on enseigne la non-violence d'abord par notre manière d'être, par notre témoignage. On essaye d'être non-violent. Et de témoigner en parole aussi de ce que la non-violence peut apporter dans notre vie, à quel point cela peut régler un certain nombre de problèmes. Et donc, c'est essentiellement une une éducation par le témoignage. Après, je disais oui et non, parce qu'il y a toute une part de la non-violence qui relève plutôt de l'intime et qui ne peut pas être transmise. C'est la conversion de chacun. La non-violence repose sur une conversion, sur un retour à Dieu, un retour à l'essentiel, un retour à l'Évangile pour ceux qui sont chrétiens. Et ça, évidemment, ça, on peut en témoigner, mais on ne peut pas le faire à la place de l'autre. Hein, on ne peut pas se convertir à la place de l'autre. Et donc, la non-violence, eh bien, elle est aussi l'effet d'une prise de conscience personnelle et d'un choix de conversion personnelle. Donc, la non-violence a besoin des deux, à la fois le témoignage et puis la démarche que personne ne fera à ma place.
Voilà, alors vous l'avez évoqué, il y a des bases théologiques dans la non-violence. On trouverait des appuis dans le message chrétien. Est-ce qu'on peut les préciser ? Est-ce que vous pourriez les préciser, au fond, ces bases théologiques de la non-violence ? Est-ce qu'elles sont vraiment fondamentales ? Est-ce qu'elles vont loin ?
Alors, je crois... Bon, on va parler seulement du christianisme, mais rappelons-nous que pour Lanza del Vasto, il y avait des fondements aussi de la non-violence dans toute religion, et que c'est ça la base de la réconciliation entre les religions, sans syncrétisme, hein, mais en s'ouvrant à l'autre tout en approfondissant chacun sa propre tradition. Alors, là, dans la tradition chrétienne, il y a des fondamentaux qui sont non-violents. D'abord, la définition même de Dieu, lorsque dans la première épître de Jean, il est dit que Dieu est amour. Dieu est amour, ça veut pas dire seulement que Dieu aime, c'est vraiment l'amour qui définit Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et l'amour. Et l'amour au sens agapé, hein, il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Donc l'amour qui va jusqu'à donner sa vie, et Dieu l'a fait. Dieu a donné sa vie en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment un geste non-violent par excellence qui doit inspirer tous les disciples du Christ, c'est-à-dire d'être prêt à donner sa vie et donc à faire... preuve d'autant de courage que les soldats, que les militaires qui sont aussi prêts à donner leur vie mais en utilisant la violence, en tuant parfois, alors que la non-violence, eh bien, demande autant d'abnégation, autant de courage, mais sans violence. Et là, il me semble qu'il y a dans l'œuvre du Christ même un message par sa vie, un message de non-violence. Après, il y a son enseignement. Le Christ nous demande d'aimer notre prochain et même d'aimer nos ennemis. Et là, cette formule « aimer vos ennemis » qui peut être difficile à comprendre, qui peut même être choquante parfois, elle est un commandement du Christ. Et on peut pas faire comme s'il ne nous le demandait pas. Alors, on peut dire que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Le Christ ne nous aurait pas demandé quelque chose d'impossible. Ce n'est ni facile ni impossible. C'est difficile, c'est exigeant, mais c'est possible. C'est possible. On peut les uns et les autres, hein, certainement, en témoigner. Et puis on sait qu'à travers l'histoire, il y a des très beaux, très 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 belles réconciliations entre ennemis. Et puis, dans la Bible, au-delà de l'enseignement du Christ, il y a des situations qui nous sont racontées d'amour des ennemis, dans l'Ancien Testament déjà, dans le Nouveau Testament aussi. Donc, on est au bénéfice, quand on est chrétien, de tous ces textes qui non seulement nous demandent d'aller vers la réconciliation, de pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire d'être prêt à pardonner toujours, et nous sommes au bénéfice aussi de toutes ces histoires qui nous racontent qu'il est possible d'aimer ses ennemis, non pas par la passivité, mais en allant vraiment dans un engagement auprès d'eux, de manière à faire en sorte qu'ils ne soient plus nos ennemis. Donc là, il y a des bases théologiques absolument fondamentales, puisqu'il est question à la fois de l'œuvre du Christ et de son enseignement éthique. Donc nous sommes au cœur même de la foi chrétienne, me semble-t-il.
Oui, merci. Eh bien, on va clore cette série d'entretiens sur cette réflexion. Merci beaucoup pour cette série d'entretiens, Frédéric Rognon. Je rappelle, vous êtes pasteur et vous êtes professeur de philosophie. Et nous avons, je crois, avec vous, avancé dans cette réflexion avec la pensée de Lazzano del Vasto sur cette réflexion sur l'importance de la non-violence. Merci beaucoup. Chaque année, le 11 novembre permet d'évoquer cette terrible guerre de 14-18, première guerre mondiale qui a fait environ plus de 18 millions de morts, plus de 9 millions de morts pour les militaires et presque autant pour les civils. Les trois quarts des pertes au combat sont attribuées à l'artillerie et les pertes civiles sont dues en grande partie aux famines et aux maladies. Il n'y a plus de témoins directs, mais dans chaque commune, il y a ce monument aux morts qui témoigne de cette catastrophe. Marqués par ce désastre humain, des hommes ont cherché à construire dans les années 1920 des démarches de réconciliation et ont tenté de trouver les voies d'une paix durable en Europe. C'est le cas d'Aristide Briand. C'est un homme politique français de la Troisième République, né en 1862 à Nantes. 11 fois président du Conseil, 26 fois ministre. C'est un avocat, grand orateur, et il a été un des initiateurs de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 qui codifie la laïcité en France. Après la Première Guerre mondiale, il joue un rôle essentiel dans les relations internationales. En s'appuyant sur la Société des Nations, il s'efforce de bâtir une paix durable avec l'Allemagne. En tant que ministre des Affaires étrangères, il mène, avec son homologue allemand Gustav Stresemann, des actions en faveur de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Ils arrivent à convaincre les ministres européens des Affaires étrangères à signer le pacte de Locarno le 16 octobre 1925. Ces accords visent à une collaboration entre les États ennemis de la Grande Guerre et encouragent la reconstruction politique et économique de l'Europe. Pour ce succès, en 1926, il reçoit, avec Gustav Stresemann, le prix Nobel de la paix. Aristide Briand disait « L'accord de Locarno que nous consacrons par nos signatures à ceci d'encourageant, il procède d'un autre esprit, à l'esprit de précaution, de soupçon, se substitue l'esprit de solidarité ». Ces accords valent à Aristide Briand le surnom de pèlerin de la paix. Il déclare par ailleurs dans l'un de ses discours « Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage et à la paix ». Les accords de Locarno sont le grand moment de paix européen entre l'entre-deux-guerres, mais le krach de 1929 va ruiner ces espérances et on sait combien les tensions en Europe vont renaître et aboutir à la Seconde Guerre mondiale. Aristide Briand, prix Nobel de la paix en 1926, est mort en 1932 à Paris. Sans avoir pu contenir et prévenir les terribles drames du nazisme qui se nouaient en Allemagne. Max Gallo, écrivain et historien, disait d'Aristide Briand, né sous le Second Empire, trop vieux capitaine pour une mère déchaînée. À la semaine prochaine.